Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série de podcasts pour le colloque Droit et résistance numérique en contexte francophone. Hier, nous avons eu des discussions enrichissantes et des présentations inspirantes. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du contexte francophone des droits et résistance numérique. Je suis Steph Kawe, ravi de vous accompagner à nouveau aujourd'hui le 23 mai 2024. Comme vous le savez, ce colloque est organisé par le Lab Delta, un laboratoire de recherche et d'action qui explore les intersections entre technologie, activisme politique et réflexion critique. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'entendre plusieurs intervenants et intervenantes de renom sur des sujets essentiels. Nous commencerons par une entrevue avec Destiny Chewali, qui a abordé la gouvernance des industries culturelles à l'ère numérique et les enjeux de souveraineté culturelle pour les pays de l'espace francophone.
Bonjour, mon nom est Destiny Chewali. Je suis professeur agrégé en communication internationale au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Et je suis par ailleurs président du conseil d'administration de la Société Internet du Québec, donc le chapitre québécois de l'Internet Society, ISOC Québec. Aujourd'hui, j'aborderai la question de la gouvernance des industries culturelles à l'ère du numérique en me penchant particulièrement sur les chantiers réglementaires qui permettront justement de favoriser davantage la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Il s'agit en fait d'un plaidoyer qui s'appuie sur un ensemble de travaux que nous avons menés au cours des 5-6 dernières années et qui vise justement à mieux mettre en avant la diversité des expressions culturelles, et notamment des productions culturelles francophones, africaines, dans cet environnement numérique qui est de plus en plus contrôlé par les géants du web, et notamment par les plateformes numériques et leurs algorithmes, qui ont une influence sur ce que nous découvrons, ce que nous consommons en ligne d'un point de vue culturel. Donc, ma présentation va spécifiquement aborder des enjeux en matière de souveraineté culturelle. Souveraineté étant entendue ici dans notre capacité d'agir et d'affirmer notre droit à pouvoir mettre de l'avant, promouvoir, protéger nos expressions culturelles nationales, y compris aussi, bien évidemment, les productions culturelles produites dans des langues locales. Et on parle aussi des expressions culturelles de langue française, par exemple. Et de voir surtout quel est le contexte de mobilisation internationale, notamment dans des enceintes multilatérales comme l'UNESCO ou comme l'Organisation internationale de la francophonie, enceintes dans lesquelles je participe à titre d'expert, pour voir justement quels sont les leviers d'action, quels sont les moyens que nos décideurs politiques, les responsables des politiques culturelles, nos gouvernements ont aujourd'hui pour établir un rapport de pouvoir, un rapport de force avec les plateformes et avec les géants du web.
Ensuite, nous avons eu une entrevue avec Karine qui nous a parlé des conditions de reconnaissance de la société civile comme acteur de justice sociale en contexte numérique.
Mon nom est Karine Gentelet, je suis professeure agrégée de sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais. Sur la participation, l'inclusion de groupes de la société civile dans la gouvernance de l'IA, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quand même un moment parce que quand j'ai commencé à travailler sur... En fait, la question de la participation des gens, ça m'a toujours intéressée, l'inclusion et surtout les conditions d'inclusion. Comment est-ce qu'on intègre les gens? Souvent, ce que je voyais, ce qui me frappait, c'est que on aborde les gens en leur disant « Voici, vous allez participer selon ces conditions-là » sans pour autant considérer les besoins des gens, notamment, et en leur imposant des conditions, donc pas forcément des conditions qui étaient pour eux. Et je me disais, bah, comment est-ce qu'on peut inviter des gens à participer et leur demander leur avis sans pour autant prendre en considération ce dont ils ont besoin. Quand on demande quelque chose à des gens, on s'attend à le demander d'une manière que les gens soient intéressés à répondre. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les impacts sociétaux de l'IA, j'ai vu un peu ce même enjeu-là de dire on invite les gens, mais en fait on leur donne pas le choix, ils maîtrisent rien, ni les conditions de consultation, ni les conditions de donner leur avis, et même en même temps, finalement, une fois qu'ils ont donné leur avis, on sait pas trop ce que ça devient cet avis-là. Donc, à quoi sert la consultation? Et on s'aperçoit que dans les décisions qui sont prises sur les déploiements de l'IA, l'avis des gens qu'on leur a demandé n'est pas présent. Donc, visiblement, il y a un enjeu. Donc, c'est la raison pour laquelle, ce que je disais dans la présentation, je me suis dit, on va aller demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les conditions. Et donc, c'est un peu ça que j'ai présenté. Et finalement, ce qui ressort de ça, c'est que même si c'est une consultation ou c'est une, on va dire, c'est un anglicisme, mais la conversation sur la gouvernance de l'IA, finalement, ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est encore une question d'inclure des gens, de représenter des gens au sein de la société. Donc les mêmes besoins que ressentent par exemple les organisations de la société civile pour contribuer à l'IA sur la base de leur expertise, sur la base de leurs connaissances qui sont de terrain, ce sont les mêmes besoins qu'on a rencontrés il y a 20-30 ans avec d'autres types d'organisations qui demandaient à être incluses au sein d'autres types de conversations. Donc ça n'a rien à voir avec le contexte de l'IA, c'est plutôt une question de dynamique sociétale et de rapport de pouvoir, et se dire que il y a des modèles de gouvernance de l'IA, on se dit qu'on va consulter, mais finalement on les consulte pas, parce que si on devait le faire, ça devrait pas le faire comme ça. On a une connaissance sur les modes de consultation et d'intégration qui sont beaucoup plus développés, qui sont pas propres à l'IA, mais qui peuvent tout à fait s'appliquer au contexte de l'IA.
Pour terminer, nous avons également parlé à Guillaume, professeur à l'Université Laval à Québec, qui a approfondi avec nous la question du français dans le cadre de la production du savoir en français comme moyen de résistance.
Alors moi, je m'appelle Guillaume Latzko-Tot et je suis professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval à Québec. Et je suis spécialiste des aspects sociaux du numérique, on va dire. Donc hier, en fait, j'ai été interpellé par des échanges entre des panélistes, dont un panéliste qui signalait que les revues, en fait, les revues anglophones sont pour lui un moyen de diffuser le plus largement, en fait, les connaissances, et surtout de s'inscrire dans un véritable débat élargi sur des questions, sur des enjeux scientifiques. Et moi, j'ai justement réagi à l'expression choisir ses batailles, parce que il disait que ça ne devrait pas être vraiment le lieu des débats linguistiques, la publication scientifique, qu'il fallait choisir ses batailles. Et donc moi, en fait, ça m'a un peu piqué au vif, parce que je trouve qu'il y a derrière ça un pragmatisme qui est un peu dangereux, en fait, parce que justement le pragmatisme, en fait, c'est de tenir compte du contexte, mais le contexte, en l'occurrence, c'est la réalité de l'hégémonie de l'anglais. Et donc on ne peut pas ignorer ce contexte hégémonique, qui a toutes sortes de conséquences, qui entraînent des injustices cognitives, puisque je veux dire, de nombreuses sociétés, en fait, se retrouvent en quelque sorte aliénées d'elles-mêmes, parce qu'elles ne peuvent pas exprimer, en fait, leur contribution à la conversation humaine autrement que dans la langue de l'autre, et donc dans une langue, en plus, qui plus est impériale, une langue, en fait, qui est, si elle est si largement diffusée, c'est un héritage du colonialisme. Alors évidemment, on peut toujours nous opposer que le français est lui-même une langue impériale, une langue qui d'ailleurs demeure encore extrêmement répandue comparée à d'autres à l'échelle mondiale, du fait de cet héritage du passé colonial. Mais le fait est que le français aujourd'hui est secondarisé par rapport à une langue comme l'anglais, ou même comme l'espagnol. Et donc, ça nous place dans une position particulièrement propice à réfléchir à ces enjeux-là. Parce que, justement, on a la possibilité de, à la fois, rallier un grand nombre de personnes, je dirais, à travers le monde, dans une conversation dans cette langue, le français, et en même temps, ça nous permet aussi, parce qu'on est secondarisé, d'être sensible aux enjeux que cela représente, en fait, d'être minoritaire et d'être dans une langue qui peut être menacée, en fait, d'être rendue marginalisée, en quelque sorte. Hein. Et le problème fondamental, c'est que la marginalisation linguistique entraîne aussi la marginalisation cognitive.
Pour conclure cet épisode, récapitulons les points saillants d'aujourd'hui. Nous avons exploré diverses perspectives sur les enjeux des droits et résistances numériques dans le contexte francophone, mettant en lumière des aspects essentiels de la gouvernance culturelle, de la justice sociale et de la production du savoir. Demain, nous continuerons avec un bilan de l'événement avec Stéphane Couture, co-directeur du Lab Delta. Et nous écouterons également un rapport d'expérience de Chanel, l'une des étudiantes qui a collaboré avec Stéphane pour l'organisation de l'événement. Merci d'avoir écouté le podcast du jour 3 de notre colloque. Rejoignez-nous demain pour clôturer l'événement parce que oui, demain c'est le dernier jour de l'événement et nous allons prendre le soin de faire un bilan avec Stéphane Couture évidemment. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site web labdelta.ca. À demain pour de nouvelles découvertes.